France Inter.
Plus de 4 millions de passagers par jour dans le métro parisien, auxquels s'ajoutent les millions de personnes qui prennent le RER, le bus ou le tramway. Une journée de galère donc en Ile-de-France avec 10 lignes de métro fermées, très peu de RER et un bus sur 3 en moyenne. Nous allons tout de suite voir comment ça se passe ce matin. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Vous vous trouvez actuellement Gare du Nord sur le quai du RER B avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus tôt que d'habitude.
Oui, dès 5h30, gare en effervescence, rames de train surchargées et des mines dépitées comme Franklin, sourcil relevé.
Je dois partir à Nantes et là je me retrouve avec 15 minutes d'attente. Je tente le coup parce que j'ai payé mon billet, donc je vais aller jusqu'au bout pour voir, on sait jamais, peut-être avec un peu de chance le Ouigo aussi aura un peu de retard. Et puis voilà, on va voir, c'est que le début de la galère de la journée, on verra comment ça se passera.
Pour Samira, toutes les journées commencent tôt avec le premier train à Clichy-sous-Bois. Femme de ménage, elle a deux employeurs, une première prise de poste imminente, elle tente de grimper dans son RER.
Elle est blindée en plus, il faut que je travaille à 6h, il faut que je rentre avant 9h30, sinon l'RER B il n'y a pas. Il faut que je chienne vite fait et je rentre. Déjà mon travail l'après-midi, je ne travaille pas aujourd'hui, je vais le faire le lendemain.
Lève-toi aussi, Franck, debout depuis 4h30 et philosophe.
Oui, je vais attendre le prochain, là. Si c'est mort, je rentre chez moi.
Vous avez déjà vu ça?
Une grève comme ça, c'est la première fois. Il n'y a pas de métro là.
Si vous rentrez chez vous, vous êtes payé?
Ah, je sais pas. C'est là. Bon, ça à l'arrière, tant pis.
Séverine, elle, va faire plus de 7 heures de transport aujourd'hui. Pas de congé à poser, pas un centime de salaire à perdre. Pas de rancœur non plus contre les grévistes.
Non, je les comprends. C'est comme les routiers à l'époque qui étaient obligés de bloquer les stations essence pour se faire entendre. Faut se faire entendre. Et c'est en masse qu'on se fait entendre.
Et pas d'esprit échauffé ici. Pour l'instant, l'information a été largement diffusée et les voyageurs sont parés et résignés.
Merci Delphine Evenoux en direct de la gare du Nord avec Frédéric Héroux pour les moyens techniques. Conséquence de cette grève, déjà 140 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Nous ferons un point route en direct dans une dizaine de minutes. Une grève massivement suivie donc à la RATP. Une grève comme un avertissement alors que les négociations sont en cours pour réformer les retraites. Les salariés de la régie ne veulent pas que le gouvernement touche au régime spécial qui leur permet actuellement de partir à la retraite en moyenne à 55 ans contre 63 ans pour le régime général. Un avantage justifié selon les syndicats par les contraintes spécifiques et la pénibilité de leur mission, travail en horaire décalé, le week-end et les jours fériés notamment. Invité hier soir sur TF1, le Premier ministre a plaidé pour une remise à plat de ces régimes spécifiques en multipliant les comparaisons.
Le chauffeur de bus du Havre, ou de Bordeaux, ou de Metz, ou d'où vous voulez. Il a parfois exactement le même travail que le chauffeur de bus de la RATP, dans les mêmes conditions, en tout cas avec des contraintes approchantes. Et il a un régime de retraite qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on ne peut pas essayer, alors qu'il n'y a pas d'urgence, essayer de refonder totalement un système pour faire en sorte qu'il soit universel, pour faire en sorte qu'il soit solidaire, pour faire en sorte qu'il continue à fonctionner par répartition, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui.
Et la réforme sera discutée au Parlement d'ici l'été prochain. Rappelons Nicolas que le haut commissaire chargé à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, sera l'invité du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Le Premier ministre qui a également hier soir apporté son soutien à Richard Ferrand, mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. La compagne du président de l'Assemblée nationale a, elle, été placée hier sous le statut de témoin assisté pour complicité de prise illégale d'intérêt et recel. Justice encore avec l'heure du jugement pour les époux Balkany. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre cet après-midi sa décision. Une peine de 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt avait été requise contre Patrick Baltani, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. La colère des policiers de Seine-Saint-Denis qui appellent à une journée morte dans les commissariats du 93 jusqu'à la réintégration de leurs collègues. Un policier d'Aulnay-sous-Bois a en effet été suspendu hier et une enquête de l'IGPN ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une interpellation musclée à Sevran. Mathieu Mondeloni.
La vidéo dure moins de 30 secondes. Elle démarre au moment où un policier et un homme se font face, semblant s'invectiver. Soudainement, pour une raison inconnue, le fonctionnaire tente de le plaquer au sol, puis faute d'y parvenir, il lui assène plusieurs coups de poing. L'homme les évite, puis les rend. Le policier semble en difficulté, ses collègues interviennent. L'homme s'écroule, apparemment maîtrisé par un tir de taser. C'est alors que les policiers procèdent à son interpellation et c'est là que la vidéo se termine. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes crient à la bavure, mais selon la préfecture de police, les fonctionnaires sont intervenus en raison d'un outrage à agent sur la voie publique. Le policier n'a été suspendu que le temps de déterminer les circonstances exactes de cette interpellation, dit la préfecture, et non en raison de sa culpabilité. La garde à vue de l'homme a, elle, été levée mercredi soir pour raison médicale. Il a été hospitalisé.
France Inter, 7h07, Agnès, Bercy parle d'un accord historique.
Google a en effet signé hier un chèque de près d'1 milliard d'euros pour solde de tout compte, paiement des arriérés fiscaux et d'une amende qui met un terme aux poursuites engagées par le parquet national financier. Bercy voit une excellente nouvelle pour les comptes publics et peut-être, Fabien Cazot, le début d'un changement.
En signant son chèque d'1 milliard d'euros, Google accepte d'une certaine manière le principe de payer des impôts dans un pays où il fait des bénéfices. Une victoire en matière d'équité fiscale, se réjouit le ministère de l'Économie et des Finances, même si la transaction entre Google et la France n'est pas une première. Il y a des précédents au Royaume-Uni et en Italie notamment. Selon l'économiste Rémi Bourgeot, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, les rapports de force entre États et géants du numérique sont peut-être en train de basculer.
Les cadres de ces entreprises sont des êtres humains qui prennent aussi conscience des différents aspects et même les grands groupes numériques comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir aller dans une sorte de surenchère d'optimisation fiscale. On voit vraiment un grand nombre de pays, quelle que soit leur orientation politique, vraiment se soucier de cette question du modèle fiscal. On est vraiment en pleine renégociation à l'échelle mondiale de la taxation internationale.
De quoi relancer les débats sur l'instauration d'une taxation dans le cadre de l'OCDE qui regroupe les principaux pays occidentaux. Tout reste à négocier entre les États, les Américains semblant pour l'heure beaucoup moins enthousiastes que les Européens.
Retour aux Bahamas où les rescapés de l'ouragan Dorian vivent désormais dans l'angoisse d'une nouvelle tempête. Une dépression pour leur baptisée Nine menace en effet l'archipel. Reportage sur l'île d'Abaco de l'envoyé spécial de France Inter, Thibault Lefebvre.
Gary raconte avec une précision clinique les 40 heures qu'il a passées à protéger sa femme et ses deux filles de l'ouragan Dorian. Plus de 10 jours après la catastrophe, il ne veut surtout pas revivre les mêmes scènes.
Quand il commence à pleuvoir, j'ai l'impression que la tempête revient. J'ai des flashbacks, je vois des débris voler. La tempête revient, elle revient. Vous voyez ce que je veux dire? La tempête pourrait arriver, elle ne sera pas aussi grosse que Dorian, mais moi je le ressens comme ça. Ça pourrait me causer un nouveau traumatisme. Je vais faire mes affaires et partir. Je ne resterai pas.
Et pour les derniers habitants qui ne pourront pas quitter l'île, faute de moyens ou d'informations, les associations humanitaires commencent à travailler sur un plan d'urgence.
Les gens doivent savoir où se trouvent les abris qui ont résisté à Dorian. Mais s'ils vivent dans des abris de fortune comme des tentes, ils ne survivront pas à un nouvel ouragan. Les routes pourraient être bloquées, inondées, comme dans les îles Vierges il y a 2 ans. L'ouragan Irma est passé par là, suivi 10 jours plus tard de l'ouragan Maria. Et après l'ouragan, il a plu pendant 18 heures. Les gens qui avaient commencé à reconstruire sont repartis de zéro.
Pour aider les ONG et les forces armées bahaméennes, des renforts sont arrivés hier sur Abaco, 200 soldats néerlandais et allemands et 50 français.
Thibault Lefebvre aux Bahamas pour France Inter avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques.
Et à 7h10, Agnès, retour en France avec les premiers détails du congé pour les aidants.
Ils sont 4 millions d'actifs à prendre soin d'un proche malade. Un congé existe, mais il n'était jusqu'ici pas rémunéré. Il le sera bientôt. Mais les associations reçues durant l'été au ministère de la Santé redoutent une mesure minimaliste. Véronique Julia. Ce congé aidant, il existe depuis 2 ans déjà. L'employeur est tenu de libérer 3 mois renouvelables jusqu'à 1 an à un salarié qui doit s'occuper d'un proche. Mais jusqu'à présent, ce congé n'était pas rémunéré. Très peu de salariés en ont donc fait la demande. Rajouter à ce congé une indemnisation devrait garantir son succès. L'indemnité évoquée pour l'instant, autour de 40 euros par jour, paraît pourtant très insuffisante à Olivier Maurice. Il est délégué général du collectif Je t'aide, qui fédère des associations d'aidants.
Accompagner un proche qui perd son autonomie, ça coûte cher. On serait sur un reste à charge par mois autour de 1000 euros. Donc avec 40 euros, on couvre à peine ce reste à charge. Que resterait-il à l'aidant pour vivre.
Autre question, la définition qui sera retenue pour l'aidant. Va-t-on limiter la mesure aux situations seulement les plus aiguës? La durée du congé rémunéré fait débat également. Actuellement, le congé est limité à 1 an pour l'ensemble d'une carrière professionnelle. C'est trop peu, insiste encore Olivier Maurice.
Cette génération de personnes qui ont entre 40 et 50 ans peuvent avoir à charge un parent dépendant, 2 parents dépendants, voire un grand-parent, plus des enfants. Ce sont des cas de figure que nous promettent les évolutions démographique. graphique. Un an, c'est très très en deçà des besoins.
D'après le collectif, les aidants réalisent eux-mêmes 70% des soins nécessaires aux patients et génèrent ainsi des économies substantielles pour l'assurance maladie. France-Argentine, c'est l'affiche de la demi-finale de la Coupe du Monde de basket et ce sera cet après-midi à suivre à partir de 14h. On termine avec la rencontre improbable entre le compositeur français Jean-Claude Vanier, qui a notamment mis en musique Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg, et du chanteur de rock américain Mike Patton. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un hommage à l'homme de la tête de chou que les deux hommes se sont rencontrés avant de travailler ensemble sur un album. Mathieu Culeron. My name is Browning
and my motto. La collaboration artistique saugrenue entre Mike Patton et Jean-Claude Vanier commence à l'occasion d'une balade à San Francisco.
Je me souviens d'avoir acheté Hall de Ginsberg et lui, il a acheté un bouquin de Jacques Prévert. Il m'a dit, et si on faisait un album ensemble ?
Chanson d'amour, those good old tunes.
L'orchestrateur de Gainsbourg et le chanteur de Face No More se sont trouvés artistiquement une petite révolution pour Mike Patton.
La plupart de la musique que j'ai faite est surorchestrée, je l'admets, c'est une faiblesse. Travailler avec lui, ça a été comme regarder travailler un architecte.
Pour réaliser ce disque, les deux musiciens se sont parfois bousculés, un processus de création nécessaire et ce depuis toujours pour Jean-Claude Vanier.
C'est des engueulades esthétiques. Gainsbourg, par exemple, il y a certaines notes que j'écrivais, il ne les supportait pas. Je l'obligeais à les chanter, mais ça le faisait chier, quoi.
Donc vous engueuliez ?
Toujours.
Et qui c'est qui gagnait ? C'était vous ?
Toujours.
Corpse Flower, un disque majestueux, né d'une rencontre improbable, un métissage brillant et généreux. Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info sur l'enquête sur les assistants parlementaires du Modem. D'ici là, un premier point route. Emeline Ferry, bonjour.
Bonjour.
Il y a, Emeline, beaucoup, beaucoup de monde sur les routes d'Île-de-France.
Oui, vous êtes nombreux à avoir choisi la voiture ce matin pour éviter la grève massive de la RATP. 197 km de bouchons cumulés pour l'instant sur les routes franciliennes. La courbe atteint un niveau exceptionnel, bien au-dessus des moyennes habituelles. Et elle continue de grimper. Il y a de gros bouchons sur les axes en direction de la capitale. Vous perdez une demi-heure sur la 4 en arrivant de l'Est. Ça coince aussi au sud, sur la 6. Trafic très très chargé sur la 1 et sur la 15. On rappelle aujourd'hui que 10 lignes de métro ne circulent pas du tout. 4 seront très perturbées, ainsi que les bus et les tramways. Et le trafic est ralenti sur les RER A et B. Ils circulent seulement pendant les heures de pointe. En région, c'est beaucoup plus calme. C'est vert partout sur les cartes du PC Mobilité.